Ouais, c'est ça, c'est 7h05 et non pas 6h, non, non pas 8h. Attends un petit peu, là, je suis déjà tout mêlé. Là.
Non pas 8h.
Un auditeur m'a écrit ce matin, m'a dit « Pis, Paul, réveil, pas trop difficile. » Pas en tout, pas de problème. Mais tu vois que mon cerveau, lui, dit pas la même affaire. Non, Jean de Québec, ça a bien été. Hein, on n'est pas mort. Il n'y a personne qui souffre trop du changement d'heure.
Tout en beauté tout et tout en énergie ce matin.
Tout est assez normal pour nous. Hormis peut-être Willy, qui lui a eu toute une surprise ce matin.
C'est ça, oui. Effectivement.
C'était écrit que t'avais une heure sur le téléphone puis une heure différente sur le four, là, tu t'es dit, oh, à laquelle je fais confiance.
Exact, là. Le cadran, il était marqué 5h15, mais là, en allant aux toilettes, j'ai bien vu sur l'heure du décodeur Vidéotron qu'il était bien 6h15.
Parce que le décodeur, il se trompe pas, lui.
Exact. Puis ça s'actualise automatiquement, là.
C'est ça qui est mêlant, par exemple, de nos jours, parce que avec les téléphones cellulaires, les tablettes, le décodeur, tu vois, j'y avais pas pensé, mais même notre cadran en studio, on a un cadran, évidemment, qui nous montre l'heure, là. Puis il a changé automatique. Mm-hmm. Mais là, tantôt, j'étais assis dans le... J'ai fait, à un instant, 5h55. Y est-tu 6h55? Là, je me suis mis à paniquer. Je regarde mon ordinateur. OK, non, c'est beau. C'est la bonne... J'ai comme un petit 12. Moi, c'est ça qui est... Mais c'est ça mon angoisse du changement d'heure.
Vois-tu, c'est pour des choses comme ça que j'ai signé hier la pétition de Myriam. Ben, plutôt vendredi, je l'ai signé, mais on en a parlé hier, là.
Pétition qui se retrouve...
Non, mais c'est juste pour des petites choses comme ça.
Ouais, c'est la page Facebook du FM93, sur ma page. C'est facile à trouver, mais si vous en avez marre qu'on change l'heure comme ça deux fois par année, puis qu'on sait pas, on sait même pas pourquoi, on se doute que ça change rien. Tous les spécialistes disent
c'est pas
ça
bon.
A plus d'effets négatifs que positifs. Allez, on signe ça. C'est juste pour qu'on reste à l'heure d'été à l'année longue. Qu'on fasse comme le Saskatchewan fait, par exemple, puis comme plein d'autres pays. Je pense en France aussi.
Il y a personne qui mérite de perdre une heure de nuit, là.
Ouais, ça aussi. Ça, c'est insultant. Ouais.
Mais sérieusement, une chance que les cellulaires intelligents existent parce que ça a changé la donne. Parce que il s'arrange tout seul pour te faire avoir la bonne heure. Mais la seule question que tu te poses, c'est mon cadran. Moi, je le mets-tu à 4 heures? Ou je le mets à 3 heures. Puis là, tu dis, il faut que tu réfléchisses. Non, ça change tout seul à 1 heure. Donc, je vais être correct pour mon cadran.
Tu sais, les radio-réveils, le bon vieux radio-réveil, là, peut-être que c'est là-dessus que vous nous écoutez présentement. Ouais. Là. Moi, mon radio-réveil, je me souviens que je pouvais programmer la date dedans. Et théoriquement, genre dans le petit pamphlet là, qui vient d'en boire, là, théoriquement, il s'ajuste à l'heure d'été et à l'heure d'hiver. Ça fait que...
Hey. Je fais pas confiance à ça.
Ben, zéro open bar, surtout que moi, j'ai jamais la bonne date.
Mais non, c'est en plus.
Je programme la date, mais tu sais bien que tu manques de courant une fois. Bon,
le 2 novembre.
Ça plante. Ça. Fait que là, tout d'un coup, non seulement tu risques de manquer la foi du changement d'heure, mais ça se pourrait qu'un 11 janvier, ton cadran sonne pas à bonne heure, pas tout, parce que lui, il a décidé que c'était le temps de changer.
Je sais pas si je suis la seule, mais je trouve ça tellement angoissant. Moi, j'ai le toc du cadran. Je vais vérifier 7 fois si j'ai mis mon cadran, mais je viens de le regarder il y a 2 secondes. Mais je vais vérifier encore. Je vais me relever du lit, puis là, je suis comme, t'es folle, fais pas ça, mais j'y vais quand même.
7h08, c'est la bonne heure.
Oui.
Si vous voyez 7h08, vous êtes à la bonne place.
Sinon, vous êtes en retard.
Si vous voyez 6h08, donnez une petite heure de plus. Avant de se lancer dans le journal, je veux m'arrêter à la une, parce que ça compte comme se lancer dans le journal, mais mettons le journal fermé. Parce que sur la une, c'est l'une des fiertés de l'ancienne Lorette. On parle souvent de la fierté de l'ancienne Lorette comme étant Patrice Bergeron, joueur de la Ligue nationale. Mais Félix Auger-Aliassime, jeune joueur de tennis de
18 ans.
Il a l'air d'en avoir 15.
Il a de l'air d'en avoir 14-15, t'as raison. Et toute une fierté pour l'ancienne Lorette et la région de Québec. Je vois les étoiles scintiller dans les yeux de la seconde fierté de l'ancienne Lorette, Willy Wavin.
De L.A., un fier représentant.
De L.A. Félix Auger-Aliassime qui s'est payé la tête du 10e joueur mondial hier, Stefanos Tsitsipas, qui est, en plus d'être le 10e joueur mondial, littéralement une sensation au sein du tennis mondial. C'était un autre jeune homme dans la vingtaine.
Oui, 23, je pense.
23 ans. On dit de lui, là, avec un ou deux autres joueurs, qui sont vraiment là l'avenir du tennis. Les prochains Djokovic et Federer, là, ça va être... Il y a 2 ou 3 bonhommes et Stefanos Tsitsipas. Ben, Félix Auger-Aliassime en est venu à bout hier. 6-4 et 6-2.
6-4, 6-2. En l'espace de moins d'une heure.
Écoute, c'était... Je pense que le match était prévu pour 18h30. Moi, je m'étais aligné là-dessus, mais du 18h30, c'est pas si pire. Je reviens chez un ami parce qu'on regardait le soccer. Il était 7h10 hier soir à peu près. Le match était fini. Je recevais la notification sur mon cellulaire. Je marchais pour revenir chez moi. Aliassime,
déjà, c'est fini.
J'ai tout raté.
Mais on s'attendait peut-être à 3 ou 4-7, mais finalement, Félix, il a réglé ça en 2-7. Assez facilement, une domination.
Moi, c'est ce que j'aime de la jeunesse là, dans ces sports-là. Surtout au tennis, je trouve qu'on le voit encore plus. je sais pas si c'est de la naïveté, de l'insouciance, mais ils rentrent sur le court comme s'ils étaient extrêmement confiants. Ils ont pas de problème. Ils gèrent le match puis ils sortent la tête haute. On dirait que plus tu vieillis, plus t'as d'hésitation parce que t'en as vécu des mauvais matchs. Mais lui, il rentre là en se disant, c'est là que je vais faire ma preuve.
Rien à perdre.
T'as pas la pression.
Ouais, rien à perdre.
Il a moins l'air d'un tchèque de 18 ans qui fait ses débuts dans la Ligue nationale. Tu sais, qu'il a son casque puis il est pas trop sûr
pas
sur
trop
le coin
attaché.
Du banc, là. Ouais, c'est ça, exactement, là. Tu sais, il est, en entrevue, il est pas trop sûr. Comme Kotkaniemi, là, tu sais, il fait juste parler tout bas, là.
Ouais.
Non, mais lui, Félix Auger-Aliassime, très mature pour son âge.
Oui.
Puis il a l'air, physiquement, il a l'air d'un gars de 13 ans, comme tu le dis, Pascal. Mais quand on écoute simplement, mettons, une entrevue sans les images de Félix Auger-Aliassime, on a l'impression qu'il a 28 ans, ce gars-là.
Ah, oui, hein.
Tellement mature, les propos sensés.
Mais dans la façon qu'il joue aussi, il donne l'impression qu'il est, parce que tu dis 28 ans, c'est pas mal un moment où tu t'attends au tennis, là, à ce que le joueur soit vraiment dans le top de sa forme. Mm. Dans sa carrière,
à son pic, là,
dans sa carrière, qui peut, s'il joue bien, qu'il y a des commanditaires, puis qu'il y a pas trop de blessures, s'étirer jusqu'à la mi-trentaine. Tu sais, les joueurs qui dépassent la mi-trentaine sont assez rares.
En Federer, il y en a peu.
Ouais, il y en a quelques-uns là qui jouent jusqu'à 36, 37, 38 là, mais tu sais, normalement 35, on va dire, c'est pas mal le moment où tu commences à te demander si tu continues une année de plus ou non.
C'est excessivement dur physiquement.
Mais 18 ans. C'est vraiment pas rien.
Non.
Il a accédé à une finale d'un tournoi un petit peu plus tôt cette année. C'est la troisième fois qu'il accède au troisième tour. 58e au monde, seulement à 18 ans.
Et là, il a non seulement du talent et de l'avenir sur le plan technique du tennis, c'est le fun, mais je pense qu'il a, un peu comme Denis Shapovalov, son ami de lui qui a eu 19-20 ans, pas plus, l'autre Canadien, là, la petite casquette à l'envers, les petits cheveux blonds. Là.
Hey, lui, c'est un aplomb. Hein?
Ces deux gars-là, ils ont le charisme aussi pour intéresser des jeunes au tennis, tu sais.
Oui.
Puis intéresser des gens à s'asseoir devant le téléviseur pour regarder du tennis, même si, tu sais, moi ça m'arrive, je veux les regarder les matchs d'Aliassime quand il joue contre un joueur comme hier, comme Tsitsipas, mais je suis pas un fan, je joue pas au tennis, je connais pas vraiment ça, je suis pas très bon. Sauf que, tu sais, il a cette attraction-là.
Oui, par son attitude.
Exactement.
Puis, tu sais, l'attitude est traduite, là, quand tu dis à la une du Journal de Québec ce matin, tu le vois dans son visage, toute la confiance. Il y a autant de confiance que Willy quand il a dit Pascal en pensant que c'est la bonne façon de prononcer mon nom il y a quelques secondes.
Si bon, elle passe ses messages, pareil.
Elle ne l'a pas faxé.
P.O. accent grave.
Alors voilà pour Félix Auger-Aliassime qu'on félicite puis qu'on va suivre, évidemment, dans la suite de ce tournoi d'Indian Wells. Alors, je vous ai parlé de la fierté de l'ancienne Lorette, Félix Auger-Aliassime. La deuxième fierté de l'ancienne Lorette, Willy Boivin.
Ouais.
Maintenant, comment dire, pas la disgrâce d'ancienne Lorette, mais mettons...
Je te vois venir, mettons.
Ouais, voici plutôt...
La déception?
Celui qui n'incarne pas du tout la fierté.
Celui qui a trop de confiance par rapport à ce qu'il devrait avoir.
Peut-être. À l'ancienne Lorette.
Oui.
Si vous avez regardé Infoman dans la dernière semaine, vous allez connaître cette histoire-là. C'est le maire Émile Loranger. Mère à vie de l'ancienne Lorette, grand monarque de LA, Émile Loranger, qui a été convoqué en déontologie par la Commission municipale du Québec pour répondre à des manquements au code d'éthique et de déontologie de la municipalité, qui ont été donc identifiés par la direction des contentieux puis des enquêtes de la Commission. Pourquoi? C'est pour ça que je faisais référence à Infoman, parce que tu sais, Pascal, Infoman, il y a une rubrique que je chéris.
Oh, que je l'aime.
Que je ne manque jamais. Qui s'appelle Infoman municipal. Puis là, ben, ils prennent des extraits de conseils de ville qui tournent un peu mal.
Ouais, des conseils de municipaux, mettons, celui qu'on a vu là, qui cognait tout le temps avec son,
avec son petit marteau. Puis les madames qui se chicanaient, je me souviens plus dans quelle ville.
Ouais.
Puis tu sais, bon, bref, il fait une espèce de parodie. C'est une satire.
C'est une risée, ouais.
C'est ça, de ce qui se passe dans les conseils de ville. Et cette fois-là, ça portait sur l'ancienne Lorette. Parce que il y a eu une séance du conseil où il y avait des démarches pour lancer une enquête de la Commission municipale du Québec. OK? Il fallait que les conseillers de la ville donc votent à savoir si est-ce qu'il va y avoir une enquête, oui ou non.
Mm-hmm.
Et l'enquête portait sur de présumés agissements du maire Loranger, harcèlement psychologique, des choses comme ça, dont il était accusé. Mais il y a eu une entente, finalement, puis ça s'est réglé hors cours. Donc, on ne sait pas, on connaît rien de cette histoire-là. On ne sait pas c'est quoi les gestes concrètement qui lui sont reprochés. On ne sait pas si ça s'étend sur une période de combien de temps. On ne sait pas. On sait rien. Or, il y a une requête pour que la commission municipale du Québec fasse une enquête. Trois conseillers votent pour. Et trois conseillers votent contre. Il y a égalité.
Qui tranche?
Qui doit trancher? Le maire l'a rangé lui-même.
Bien sûr, il est contre.
Alors, bien sûr, lui, il dit, je vote contre le fait qu'il y ait une enquête sur mes propres agissements de harcèlement psychologique ou des allégations, du moins.
Plus drôle que ça, c'est impossible.
Fait que là, il se retrouve à être juge et parti.
Oui.
C'est lui qui, c'est lui qu'on accuse. Mais c'est lui qui décide au final s'il n'y aura pas d'enquête.
En fait, c'est pire que ça, il tranche. C'est ça qui est le plus drôle.
C'est ça. Alors, alors là, ben évidemment, ça marche pas. Donc, il va devoir quand même qu'on parle devant le comité de déontologie de la commission municipale du Québec. Je pense que c'est quand même une bonne affaire, là. Parce que l'autre affaire qui est quand même importante de dire, c'est que j'en ai déjà parlé parce que, tu sais, le fameux harcèlement psychologique en milieu de travail, là, on en parle quand même régulièrement. Hein. Ça arrive une fois de temps en temps. Ça frappe souvent des politiciens, d'ailleurs. Gilles Loyer a été visé par des allégations de harcèlement psychologique par des anciens collègues ou des collègues. Tu sais, c'est quand même sérieux dans la mesure où moi, j'ai parlé avec des gens qui avaient été témoins là d'un patron qui était vraiment harcelant psychologiquement, qui me décrivait ce que c'était. Tu sais, un patron qui dénigre ses employés, qui leur met indûment de la pression pour quelque chose qu'ils en méritent pas, qui fait de la micro-gestion, qui pique des colères, il y a comme plein de choses qui peuvent rentrer là-dedans. Mais l'autre affaire, le revers de la médaille, là. L'autre côté tranchant de ce couteau-là, c'est que piquer des colères en soi, là, si c'est juste piquer des colères, là, on est dans une méchante belle zone grise, là. T'sais, c'est sûr que si tous les employés disent oui, il est comme ça, puis c'est du harcèlement psychologique,
tout
c'est une chose.
Tout ce que tu dis, c'est s'il pique des colères, puis c'est viser quelqu'un, puis être fâché contre quelqu'un, puis c'est une chose, mais de se fâcher soi-même, puis de le vivre, mettons, oui, dans un air où il y a beaucoup de collègues, mais qui ça vise pas quelqu'un en particulier,
ben
c'est,
même,
c'en est une autre.
Je vais te donner l'autre exemple extrême, OK? Puis je te parle pas de ce qui s'est passé à l'ancienne Lorette, ni à Lévis, ni peu importe.
Mais c'est un scénario.
Je te fais un scénario, je le crée de toute pièce. Un employé qui est incompétent, dans un milieu de travail où il y a de la pression, où il y a du stress, et qui, à cause de son incompétence, pas parce qu'il travaille pas assez fort, puis pas parce qu'il y a pas du cœur à l'ouvrage, parce qu'il est incompétent, puis qu'il s'est retrouvé là, nuit au travail, non seulement au sien, mais nuit au travail des autres. Ça se peut-tu que son patron, à un moment donné, soit tellement exaspéré qu'il hausse le ton?
Ça se peut. Ses collègues aussi.
Ça se peut. Pour ça, je te dis, c'est une zone grise, parce que c'est pas comme si, je sais pas moi, un vol à l'étalage d'un dépanneur, il y a une caméra de surveillance, on voit que c'est toi, condamné. Et voilà, c'est le prochain appel. Là, harcèlement psychologique, là, parce qu'on tombe dans les sensibilités des gens aussi, des fois.
C'est ça l'affaire.
Il y a
c'est...
des gens qui vont se sentir harcelés psychologiquement.
Et d'autres pas du tout.
Et d'autres pas du tout, à l'égard d'une personne qui a exactement le même comportement pour l'un et pour l'autre.
Oui.
C'est compliqué à démontrer.
Comment tu veux établir ça?
Mais dans le cas de l'ancienne Lorette, faut qu'il comparaisse devant quelqu'un parce que ça n'a pas de bon sens. T'sais. Là, dans le cas d'un politicien, je trouve, d'un travail qui est public comme ça, je veux dire, pour la confiance des citoyens à l'égard du maire de l'ancienne Lorette, faut qu'on sache un peu, faut qu'on sache de quoi il en découle. Ben
oui, puis dans un conseil, faut que ça roule bien, faut que ça aille bien pour faire
ben
avancer
là,
les choses.
Il aurait pu se retirer du vote, puis il aurait trouvé un autre moyen de.
Fais-moi croire que ce vote-là n'a pas divisé le conseil aussi. Là. Fais-moi
oui.
croire.
Oui, puis moi, tu sais, moi, si je suis un citoyen de l'ancienne Lorette, puis tu vois ça au conseil de ville, on va-tu faire une enquête sur le maire pour des raisons très sérieuses, oui ou non? Puis là, ben, c'est le maire qui décide.
C'est non, c'est pathétique.
Je vous ai toujours dit que ça brassait, les.
Ouais.
Ouais.
Willy, ils sont pas passés 10 heures.
Ça brasse
ben, non, dangereux. D'un coup, ils tomberaient face à face avec le maire ou un conseiller du mauvais bord.
J'ai voté contre.
Pascal, qu'est-ce qui a retenu ton attention ce matin?
Ben, c'est le preneur d'otages là, à Caisse des Jardins du côté de Salaberry-Valleyfield.
Oui.
Pas que je veux en rire, mais je peux en rire un peu plus parce qu'il n'y a pas de blessés.
Oui, puis c'est insolite quand même.
Exact. C'est vraiment insolite. Le gars, il s'en va avec son arbalète. Il décide de cloîtrer 4 employés à l'intérieur de la Caisse des Jardins pendant 8 heures. On ne sait pas trop pourquoi encore, mais le gars s'appelle Marco Legault, 56 ans. Il demeure toujours détenu au moment où l'on se parle. Et quand on a appris le nom, il y a certains médias, certains journalistes qui sont allés regarder s'il y avait des antécédents judiciaires. Mais on se rend compte qu'il y en a pour les mêmes gestes au même endroit il y a 20 ans.
Dans la même caisse.
Oui, non. Peux-tu me parler de quelqu'un qui comprend pas? Peux-tu me parler de quelqu'un qui apprend pas de ses gestes? Tu fais la même chose 20 ans plus tard et t'as été condamné. Il a fait de la prison pour ça, là.
Voyons donc.
9 ans de prison.
Ah ben, sais-tu quoi? C'est peut-être un gars qui était bien en prison, qui s'est dit, moi, il retourne.
Je vais y retourner. Ou un problème mental, là. Ça, ça se peut aussi, là.
Parce que, on n'en sait pas beaucoup sur ses motivations. Mais c'est ça qui me tente de cette histoire-là.
Ben, y a une
j'ai lu une nouvelle comme toi, mais là, je suis comme, j'ai hâte de savoir. Je veux dire, c'était-tu vraiment pour l'argent?
On sait pas.
C'est un hold-up, là, à l'ancienne, avec une cagoule sur la tête, il rentre.
Ah, mais tu vois déjà l'arbalète puis le couteau. C'est pas commun, là.
Ça, c'était une autre affaire que je me suis dit. Une prise d'otage à l'arbalète. Il y a un auditeur d'ailleurs qui m'a écrit exactement, il m'a écrit exactement ce que je pensais hier. Une arbalète, là, tu veux pas qu'il tire. Mais une fois que la première flèche est partie puis qu'il a raté son coup, le temps qu'il recharge, il y a bien 2-3 personnes qui sont capables de sauter dessus,
tu
de le désarmer.
Maîtriser.
Quoi qu'il y avait un couteau, c'est vrai. Puis là, je suis pas en train de dire, faut jouer.
Non, moi, j'aurais
héros,
pas pris
là,
la chance. Tu me dis ça.
Non, mais c'est bizarre.
Je le sais que c'est bizarre. Puis je sais que c'est moins un petit peu menaçant, là, qu'un fusil où tu dis, hey, c'est facile, là,
quoi
de faire des coups de
dommages. Une flèche dans le front, ça doit faire
ça. Ça doit rentrer vite. Mais c'est déjà une prise d'otage pas habituelle. Prise d'otage à l'arbalète.
Ça fait Robin des Bois un peu.
Mais en même temps, faut que tu parles les quatre personnes ensemble pour se dire, hey, on le fait-tu, on le fait pas. Puis là, il est devant toi. Tu peux pas trop essayer de monter un complot. Mais en tout cas, ce gars-là n'a pas appris de ses erreurs.
J'ai hâte de connaître ses motivations. Parce
56 ans, comment regâcher sa vie?
À la même place.
À la même place.
Dans la même quête.
Oui. Et puis, ça me fait penser, je sors complètement, là.
Oui.
Mais moi, j'ai déjà vécu un vol de banque en direct.
Hein?
Ouais, à Montréal, il y a 2 ans. Sur ma rue, il y avait une caisse au bout. Puis, je marchais, je m'en allais travailler. D'un coup, ça sonne. Lui, il sort. Je vois, il y a un individu, plaque un peu, passe à côté, se cache dans les buissons.
Il t'a plaqué, toi?
Ben, il plaque tous ceux qui étaient sur sa route. Mais nous, on se demande, c'est qui ça?
Il part à course.
Ouais,
il a
avec
des
son
coups
sac.
D'épaule,
en puis... ouais, bing bang. Moi, je passe, je me cache dans les buissons. Il s'en va là. Je continue de marcher. Je le vois ressortir l'autre bord de la rue. Il vole comme dans Grand Theft Auto. Grand Theft Auto, c'est un jeu
vidéo.
Ouais, c'est ça. Où tu peux voler des voitures, notamment en sortant la personne, là.
Oui,
fait la même chose. Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Il est beaucoup trop tôt. J'ai pas pris mon café. Il sort la personne de sa voiture, vole la voiture, fait une course. Et là, tu vois les policiers. Parti où? On lui indique, il a volé telle voiture. Il vient de tourner sur de Gaspé. Et là, bing bang, il a fait un gros accident. Il est rentré en collision avec un restaurant puis la police. Je dis, c'était n'importe quoi. Je pensais qu'on tournait un film.
Voyons,
sur le moment, je me suis dit, je suis figurante et on m'a pas payé. Parce qu'il tourne un film, là.
Ah, mardi matin, en allant au travail, ça surprend.
Ah, c'était ça, le ruban jaune.
Oui,
il disait, silence, on tourne.
Puis finalement, le gun a été retrouvé que quelques jours plus tard, parce qu'à un moment donné, la police, quand ça devient dangereux, il y a trop de monde. Là, déjà,
il l'avait garoché en courant, j'imagine. Il s'en était débarrassé.
Non, il a tout gardé, lui, là. Puis à un moment donné, ils ont fait une recherche d'individus pendant quelques jours. Mais je veux dire, c'est surréaliste de vivre ça.
Ben, carrément.
J'aurais aimé ça vous l'avoir inventé, cette histoire-là, puis on n'est pas le poisson d'avril. Là,
non, mais écoute, parce que t'as dit, j'ai vécu un vol en direct, puis ça m'a rappelé que ça m'est déjà arrivé aussi, mais mon histoire est tellement moins hot que la tienne, là. Ça arrive même, mon histoire arrive même pas à la cheville de ton histoire.
Mais compte-la quand même.
Ouais, mais c'est parce que c'est pendant un voyage en France en 2012. Puis tu sais, en 2012, j'avais des amis français aussi qui. Fait qu'eux autres, ils me sortaient le soir. J'étais tout seul. Fait que eux autres, le soir, ils m'amenaient avec leurs amis. On sortait d'un bar, tout ça. Fait que moi, j'ai pas mal visité Paris de nuit, plus que de jour. T'sais. Et puis.
On n'est pas surpris,
à un moment donné, il est peut-être, je sais pas, 3-4 heures du matin. Puis en plus, vu que c'est une ville magnifique, on sortait au bar. Puis après ça, puis qui était à l'autre bout de la ville, puis on revenait à pied. Parce que c'est beau, le pire.
Oui.
Puis c'est le seul moment où est-ce que la ville est tranquille, tu sais, parce que sinon, c'est fou. Bref. 3-4 heures du matin, on passe devant, on tourne un coin de rue, c'est désert. C'est vraiment, là, c'est particulier, il n'y a pas une auto dans la rue, il n'y a pas de piétons, il n'y a personne la nuit à Paris.
On a volé ta sacoche?
Non, pas tout. On tourne un coin de rue, puis on entend au loin une sirène de système d'alarme.
Ouais.
Puis plus on s'approche, plus on marche, on se rend compte que on est rendu à la hauteur du commerce, d'un commerce. L'autre bord de la rue, il y a une espèce de... La porte est comme, il y a une grille sur la porte, mais elle est entrouverte. Puis là, on voit bien que le système d'alarme vient de là, tu sais. Mm-hmm. Fait que là, on passe devant. Puis au moment où, nous, on est l'autre côté de la rue, mais en face du commerce, qui était comme, je pense, une bijouterie ou quelque chose, on voit un gars sortir avec un manteau avec un grand collet, zippé à peu près là jusqu'au nez, qui sort avec un sac de sport. Tu sais, le sac de sport que...
Il est allé faire son gym, là.
C'est exactement le sac dans lequel il y a des guns, là, dans les documentaires, quand ils font du trafic d'armes, là. Puis dans lequel ils mettent des bombes dans les stations de train, là. Ce sac-là, là. ben là, ou les sacs pleins d'argent que les mafioseux utilisent pour faire des deals de drogue. Bon, vous voyez, là, vous écoutez autant de films que moi. Je vois un gars sortir du, en marchant, même pas en courant, puis en se cachant, puis en tirant des coups de feu, là, puis en embarquant sur son cheval, là, comme un cowboy, là. Il sort de la bijouterie, puis il commence à marcher. Écoute, je te jure, on marchait pas si vite, là. On a marché à la même hauteur que lui sur la rue pendant un bon 10 minutes.
Il se dépêchait pas partout.
Zéro open bar.
C'est bizarre.
Puis on n'a jamais croisé un maudit policier. Écoute, c'était à se demander s'il y avait des policiers.
Ça comme, les dérange
c'était
pas.
Trop évident que c'était un vol, mais en même temps, il se passait rien. Il avait pas l'air nerveux, le gars. Il avait pas l'air ni de se cacher, ni de se sauver. Mais si ça avait été le propriétaire de la bijouterie, ouais, là, d'après moi, il aurait désactivé le système d'alarme, puis il aurait fermé la porte derrière lui en partant.
Oui, c'est ça.
Vous savez que vous pouvez toujours participer à l'émission pendant que nous autres, on placote 25226 par texto. Vous nous appelez si vous avez quelque chose à nous dire au 670-9330 ou vous nous pitonnez des courriels au studio à commercial FM 93.com. On prend une courte pause et on vient.